conférences de Radio Languedoc. Comment redynamiser un carnaval dans notre société? À qui la thématique préposa de Père Claudie Alranque pour une présentation pro complète de l'histoire et del fonctionnement des rituels de carnaval. Une conférence à l'initiative del MEDOC, l'association des étudiants d'Occitan de la faculté Pau Valéry de Montpellier. Aurez aquí la seconde partie d'aquelle conférence qui fut enregistrée le 12 de décembre de 2012 à l'Université Pau Valéry de Montpellier.
On continue, si vous voulez, notre passeggiata historique. On disait donc qu'il y avait eu une chute là, dans les années, un réplique dans les années de 1939-1608. Et puis, si vous voulez, on va voir grosso modo qu'est-ce qui se passe au 19e siècle. 19e siècle, la bourgeoisie al poudet et même les républicains font la bebo al carnaval. Si bien que les carnavals, c'est-à-dire le besoin de carnaval, il se reconvertit en partie sur ce qu'on appelle chez nous la fête de la caritas. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui a déjà commencé à se passer au XVIe siècle, à la Renaissance. Comme le carnaval qu'on héritait du Moyen-Âge était encore jugé trop dangereux par l'Église, il a été un peu reporté au moment de l'Ascension, dans des fêtes Dieu, dans des fêtes de la caritas. Et là, il y avait toujours le principe du défilé avec les corporations. Il y avait toujours le principe de sortir les totems. Il y avait le principe de jeux populaires, chansons, etc., de défoulement. Mais tout à coup, dit le corpus dei, c'est-à-dire dans l'idée que nous représentons ce jour-là des morceaux du corps du Christ. Si je suis un télo universitaire, je représenterai la tête du Christ. Si je suis plutôt à travailler dans les ordres de Monseigneur, je représenterai le cœur du Christ, ou dans les hôpitaux. Si je travaille, par exemple, que je suis manuel brassier, je serai plutôt les mains du Christ. C'est l'idée qu'on voit encore à Tolède, à la fête de Dieu de Tolède. C'est-à-dire, on est une communauté solidaria, et on est une comunità solidaria, et on représente le besoin d'une unité sacrée entre nous parce que la ville a besoin de faire corps pour survivre à l'adversité, que ce soit la crise, que ce soit la guerre, que ce soit l'épidémie. Donc, il y a eu depuis le XVIe siècle, y compris en Occitanie, une dérive carnavalesque. Il y a eu donc une sorte de rebaptisation de la tendance carnavalesque au moment de l'Ascension. Donc, moins de carnaval au moment de carnaval, plus de carnaval au moment de l'Ascension. Voilà, donc, le 19e siècle, c'est cette situation. On boude le carnaval chez les républicains et les bourgeois. Par exemple, chez les républicains, il y a la séparation de l'Église et de l'État en 1907. Mais déjà, le mouvement anticlérical, chez moi, mettons à Pézenas, c'était, dans les années 1884, de faire passer la fête de Pézenas de la Saint-Blaise, qui est normalement l'ouverture du carnaval, hein, c'est le jour de Gargantua, c'est le jour où l'ours sort de sa caverne, c'est le jour de la lune banude, de le déporter à la fête au jour même de Mardi Gras. Vous voyez, donc là il y a eu une volonté de reprofaniser, hein, rendre le carnaval uniquement païen, public, alors que encore à Pézenas, c'était l'Assemblée, mais c'était à l'Assemblée que ça commençait. Ça continuait le jour du Mardi Gras, le mercredi des cendres, etc. Mais il y avait quand même un début qui était sous l'obédience de Saint-Blaise. Donc les républicains anticléricales, on ne veut plus en entendre parler. Vous voyez donc, le 19e siècle est marqué par ça. La bourgeoisie, le clergé boude, quoique. Philippe Riche, là-dessus, quand même, Marc soutient un peu. Mais les républicains préfèrent en faire une fête à part. Hein. On arrive au XVIIIe siècle. Deux courants, chers révolutionnaires. La bourgeoisie révolutionnaire, elle ne veut pas entendre parler du carnaval parce qu'on considère que c'est de la superstition. Donc au moment de carnaval, van cramant le poulin de Pézenas, van per dos trescopes cramant le camel de Béziers, ils considèrent, à Paris, le port du masque est interdit. Il est interdit également sous tout le directoire napoléonien. Hein, c'est interdit parce qu'on considère que c'est les contre-révolutionnaires manipulés par la religion et par le roi qui vont porter ces choses-là, qui vont les exploiter, comme d'ailleurs, pas sans raison, sous l'Ancien Régime, c'est vrai que nos animaux totémiques ont été quand même plus d'une fois instrumentalisés par les rois ou par les bourgeoisies ou les aristocraties locales. Quand un duc était de passage à Montpellier, on sortait le chivalet. De passage à Pézenas, on sortait le poulain. Il y a eu une complicité de l'intelligentsia provinciale durant l'Ancien Régime qui a fait dire aux républicains, aux révolutionnaires de 1789, ne nous parlez pas de ça. Le roi et la religion l'ont moisi, l'ont pourri. Mais en même temps, c'était une vue qui était une vue qui manquait d'anthropologie. C'était une vue superficielle des choses, parce que c'était quand même des bourges, c'était quand même des privilégiés. S'ils avaient regardé dans la rue ce qui s'est passé en 1791-1792, et je vous invite à lire le livre de Vauvel, qui était prof d'histoire à Aix, et le livre de Vauvel sur la Révolution en Provence, et vous verrez que les premiers temps de la Révolution, le peuple de Provence, instantanément, c'était de se déguiser en aristocrate pour se moquer des aristocrates. C'était de faire des farandoles dans la rue. La farigoule, combien de chants que moi j'ai entendu encore chanter par les mineurs des Cévennes, il y a de ça 30 ans avant qu'ils ferment les mines, mais ils nous rechantaient des farandoles de 1789-1790 avec des noms d'élus locaux. Les jugements carnavalesques se faisaient au détriment des bourgeois, des curés. Les repas patriotiques n'étaient que la reproduction très imitée des repas carnavalesques. Donc, à le moment de la Révolution française, il y a d'un coup les anti, des révolutionnaires, mais disons privilégiés, et puis le peuple qui, dans les premières années de la Révolution, a laissé aller son instinct culturel, c'est-à-dire carnavalesque. Et là-dessus, il faudra mettre les points sur les i quand on parlera d'anthropologie. Parce que, à qui dessus, la fac m'avait ce qu'on pèse. Hein. Alors, ensuite, on arrive sur la période là, du XVIIe siècle. Il faut dire donc que l'Occitanie, il y a eu un reviscoul occitan au XVIe siècle. Hein. Ce reviscoul occitan du XVIe siècle, la Renaissance, elle a été baroque. Et le baroque, c'est une forme, est une homène de carnaval. Dire, la définition même du baroque, c'est de représenter la pluralité. Nous sommes des hommes, des femmes, mais on descend d'animaux, qui eux-mêmes descendent de végétaux. Donc, la formalisation baroque reproduit toujours l'homme, mais derrière, il y a un animal, où il y a des... Il y a des fois des psychologies animales où il y a des comportements animaux et en même temps il y a cette présence de la nature. Sur le plan des idées, le baroque, c'est il n'y a pas un roi, une république, il y a la polyphonie. Et là, l'Occitanie, au moment où la France devenait classique, l'Occitanie, à niveau de la religion, comme à niveau... de la culture populaire et de la culture savante, hein, Goudouling à Toulouse. Il y a eu donc beaucoup de bals masqués à cette époque-là. Il y a les poètes, les péfouns, hein, les péfouns, les précouns, hein, c'était des sortes de crieurs publics qui ameutaient les gens au moment du carnaval, les appelaient. Il y a cette présence baroque qui identifie le carnaval languedocien, occitan, d'aquel passado. Montant un peu mais en avant, le Moyen-Âge. Alors, le Moyen-Âge, moi je suis partisan de ce qu'on appelle les changements de paradigme. Quand on change de paradigme, c'est-à-dire il y a un problème, la vie, la mort, on a des problèmes, les hommes. Faut bouffer, faut... Bon, on a des problèmes. Mais ils se poseront tant que l'homme sera sur la terre et tant que la terre sera la terre. Mais ces problèmes-là, il y a des façons chaque fois de les poser. Et ce qu'on appelle cette façon de poser, de problématiser les choses, les mêmes choses, on peut les présenter sous des formes différentes. On change de paradigme, c'est-à-dire de façon de penser, de façon d'organiser les choses. Actuellement, nous vivons un paradigme de la transformation carnavalesque. Putain, vous ouvrez la télévision le matin dans un bistrot, la baise en veux-tu, en voilà, des femmes qui remuent le cul, des hommes qui se frottent à elles. Je veux dire, le comportement dionysiaque, Dionysos, qui est aussi à la base, Bacchus, Dionysos, on va en parler un moment. Le comportement dionysiaque, aujourd'hui, il semblerait qu'on ait une société permissive, que vraiment on se dégonfle devant rien. Et même si on se dégonflait, on aurait la drogue ou les hallucinogènes qui nous permettraient d'y aller. On est capable aujourd'hui de contenter, de donner aux gens l'illusion d'une effervescence carnavalesque. Parce que effectivement, tu ouvres la télé, tu peux faire à la limite n'importe quoi. La différence, c'est que Dionysos d'aujourd'hui, c'est pas le Dionysos antique dont on va parler. Et encore moins préhistorique. Et les hallucinogènes aujourd'hui de s'envoyer en l'air à la chouchoute, ou bien comme le faisait encore, ça se fait au Maroc, ou uniquement en écoutant de la musique, et une musique partagée par la collectivité, des laoussi ensemble, et à côté peut mettre une transe. Ou bien un chaman, c'est peut mettre une transe, des copria en prenant un pot, des boulettes, certains champignons, c'est vrai. Mais c'était dans des protocoles écologiques, sociétales, qui n'ont rien à voir avec les protocoles actuels du dionysisme, qui sont des protocoles commerciaux, qui sont des paradis artificiels. Alors, aujourd'hui, on vit un changement du paradigme carnavalesque. Mais avant, il y a eu un changement du paradigme carnavalesque au moment du Moyen-Âge. Et le carnaval qu'on reçoit aujourd'hui, avec son corpus de roi carnaval, de la vieille de carnaval, de la cour de carnaval, des hommes sauvages, tout ce protocole-là, carême, carnaval, on l'hérite du Moyen-Âge. Mais le Moyen-Âge, quand il a mis en place cet arsenal carnavalesque, il l'a fait par une transformation du paradigme carnavalesque, qui n'est pas la transformation que je vous parlais là de celle d'aujourd'hui. Le paradigme, la transformation du carnaval au Moyen-Âge, c'est ceci. La fin de l'Empire romain, la chrétienté, les chrétiens prennent le pouvoir culturel. Les chrétiens prennent le pouvoir culturel avec l'expérience qu'ils ont eue de Rome. C'est-à-dire un peuple qui est aussi abattardi que ce qu'il est aujourd'hui. Passez-moi la comparaison. Mais moi, les jeux, le cirque, foutre les gens dans l'arène, on y est. Ouvrez la télévision, ce qui se passe là ou ailleurs. Les chrétiens, quand ils prennent le pouvoir culturel, après l'Empire romain, un peu avant et puis après, ils ne veulent plus entendre parler de paganisme. Parce que pour eux, le paganisme, c'est on met les gladiateurs dans l'arène, c'est des empereurs corrompus, c'est des guerres civiles en veux-tu, en voilà. Donc, il faut nettoyer la maison. Et là, en Occitanie, là aussi, on a des choses à dire sur la paix de Dieu et ce qui a été le Moyen-Âge chez nous. Enfin, c'est un autre sujet. Mais les chrétiens prennent le pouvoir culturel. Mais ils voudraient que tout soit aussi pur et dur que eux. Mais le peuple, lui, il vit sa réalité biologique, sa réalité culturelle. Le peuple, il n'a jamais été complètement romain, latin. Le peuple, il est héritier des gallo-romains. Le peuple, il n'a pas oublié complètement qu'il a des racines celtes, ou ligures, ou ibères. Donc, quand il fait la fête, dans l'Empire romain et après l'Empire romain, il l'a fait avec ce qu'il est culturellement, son métissage culturel. Si bien que, par exemple, Charlemagne va interdire tous les rituels qui se font autour des mégalithes, autour des pierres plantées, Peyre les Bados, des dolmens. Hein. Un peu avant Charlemagne, un des conciles, je ne sais pas lequel, mais un concile du 7e siècle, je crois, interdit que le peuple joue dans les rues avec des animaux totémiques. Mais la pression populaire est telle que la religion est obligée de faire un consensus, c'est-à-dire pratiquer un paradigme culturel. C'est-à-dire, le peuple a besoin de faire carnaval, il a besoin de faire carnaval, ça c'est depuis la nuit des temps, il a besoin de faire carnaval, il l'appelle peut-être pas carnaval, on va voir, hein, mais il a besoin d'y aller, de se libérer, de se renouveler, de se ressusciter, hein, et là, rien ne peut empêcher, même pas les martyrs chrétiens, ils peuvent pas empêcher là, donc on pratique le consensus. On interdira les animaux totémiques, on va placer un nom de saint sur les pulsions festives de chaque du peuple. Par exemple, la vieille, on va l'appeler Sainte Agathe, alors que la vieille, elle représentait la fin de l'hiver. Et en même temps, elle était coquine, elle était vicieuse, elle était maligne, elle était capable d'être enceinte. Hein? Donc, on l'appellera Sainte Agathe. Donc, il va se faire fêter le 5 février. Le 3 février, Saint Blaise, c'est le jour de Gargantua, du géant, qui a des patchoulines comme ça, qui est un mangeur, buveur, invétéré. Bon, eh bien, on va le remplacer par, bien qu'il ne sera pas mort, puisque Rabelais en parlera encore quelques siècles après, mais quand même, on va trouver Saint Blaise. Pourquoi Saint Blaise? Parce que, es lo sang, lo mai proche des animaux. Et c'est le saint qui guérit les animaux, il parle aux animaux, c'est le saint le plus écolo. Donc comme la fête carnavalesque populaire du Moyen-Âge, héritée de l'Empire romain, c'est une fête comme ça d'hommes sauvages, de défoulement, on choisit le saint dont la géographie est la plus proche de l'écologie. Donc on va mettre Saint Blasi, qui va être le patron de Pézenas, qui sera le patron des tisserands, qui sera le patron des lépreux, qui sera le patron des cordeliers. C'est dans les chambres qu'on met le bûcher de carnaval, et dessous, il y a un trauque. Et l'usbauch, les fous de carnaval, ils se mettent sous les cordes de chambre, sous ce qui reste des cordes, là, les copeaux de cordes de chambre, et ils attendent de bien en prendre. Et puis, bouf, ils sautent dessous le bûcher, et ça y est, le carnaval est parti. Et encore, la place à Pézenas s'appelle la canavasserie, la canebière. Bon, vous voyez, donc on met des noms de saints là-dessus. La chandeleur, c'était quoi la chandeleur? C'était une ancienne fête romaine dans laquelle Pluton, le roi des enfers, sort pour baiser, voler, kidnapper Perséphone, qui est un peu la déesse du printemps. Et il l'amène vivre avec lui en enfer. Mais Pécaïre, la mère, elle, la terre-mère, n'est pas de cet avis. Donc elle entreprend une guerre contre Pluton. Le consensus, c'est que, bon, eh bien, Perséphone vivra 3 mois l'hiver avec Pluton, mais ensuite, au printemps, elle ressortira faire sa vie en dehors des enfers. Donc ce sera le retour du printemps. Il y a comme ça, le christianisme a récupéré les choses, mais en même temps n'a pas pu les empêcher. Mais il a essayé de les limiter. Et c'est de cette époque-là, par exemple, qu'on fait la différence entre carnaval, on permet un certain nombre de choses, mais à carême, mercredi des cendres, paf, on se fait taper sur la queue, sur les doigts. Il ne faut plus y toucher. Pénitence, et on rentre dans un cycle de 40 jours jusqu'à Pâques, donc de pénitence. On pourrait encore dire beaucoup de choses sur le Moyen-Âge, hein, mais retenons quand même cette chose-là, c'est que l'Église a essayé de récupérer sans pouvoir interdire le phénomène. On remonte un peu plus haut à l'Antiquité. Dans les Romains, le roi carnaval, c'est Bacchus. C'est une défense, mais je dirais presque une défense un peu artificielle, quoi, parce qu'elle n'a rien à voir avec les Dionysies grecques. On hérite des Grecs chez les Latins, mais en même temps, Bacchus, c'est un peu un roi de carnaval mais de théâtre de boulevard, vous voyez, de vaudeville, d'opérette. Hein, il n'a pas la truculence, la sauvagerie d'un Dionysos. Déjà, c'est un dieu qui aime la fête, mais c'est un dieu décadent, Bacchus, par rapport à Dionysos. Mais quand même, à Rome, on pratique les lupercunales, c'est-à-dire les jeunes gens vont fouetter les filles, enfin, fouetter pas faire mal, mais les rites de fouetter les jeunes femmes pour les purifier et qu'elles soient fécondes. C'est lié, en même temps, c'est un peu au mythe de Perséphone, donc qui vient ensuite relibérer la nature pour créer le printemps, c'est-à-dire ouvrir la porte à nouveau à la fertilité. Il y a aussi, un peu avant Noël, avant le solstice d'hiver, chez les Romains, il y a les Saturnales, c'est le temps à l'envers. Alors, pourquoi ? Parce qu'il faut que le calendrier lunaire rattrape le calendrier solaire. Il y a 5 jours à rattraper, donc on marche à l'envers. Donc le maître peut se déguiser en esclave, l'esclave peut se déguiser en maître, et il y a là 5 jours aussi de permission, qui correspondent un peu toujours, grosso modo, au début du carnaval, à la fin, après Noël, quoi, hein, où le printemps les jours vont regrandir, dont la sève monte dans les arbres, dans les femmes, dans les hommes, et là, dont le carnaval se remet en marche avec cette poussée de la sève, la lumière qui fait à nouveau incendier l'essence. Le carnaval, donc, romain, est un carnaval un peu d'opérette, est un carnaval un peu farabicat, est un homène de carnaval pas trop sérieux. Par contre, chez les Grecs, il y a les deux grandes Dionysies, celle de janvier et celle de mars, petite Dionysie, grande Dionysie, et là, Dionysos est en même temps le dieu du vin, comme Bacchus l'est aussi, mais Dionysos est aussi le dieu du retour du printemps. C'est aussi Dionysos accompagné de ses bacchantes, hein, donc de ses femmes, de ses sauvages, qui vont parcourir les cités et puis bouffer, mettre à mal, bouffer, faire charivari, rendre la vie impossible à tous ceux qui trahissent la nature. Et le principe là chez les Grecs, c'est que le moment du carnaval, le moment des Dionysies, c'est la revanche du monde naturel, du monde sauvage, aujourd'hui on dirait du monde écologique, contre les démesures de la cité. Vous voyez les cités de ces mégalomanes dont on connaît les noms aujourd'hui, qui veulent toujours plus de grandes villes, toujours plus de progrès, toujours plus de pognon, toujours plus d'idoles, de stars de sport, de cul ou de ce que vous voulez. Quand ces messieurs-là ils sont trop gourmands, et Dionysos descend avec ses bacchantes et les met à mort. Et les familles comme la famille d'Oedipe, hein, les grands drames mythologiques, hein, la grande mythologie, le grand théâtre grec, c'est justement des familles dont les rois ont failli à Dionysos. Et Dionysos, il les a damnés. Donc ensuite, c'est des malédictions qui se propagent. Donc dans la famille d'Oedipe, il y a aussi Antigone, sa fille, etc. C'est fait là-dessus. On trahit la nature se vengera. Et elle se vengera avec Dionysos. Et elle se vengera avec des femmes. Pourquoi ? Et alors là, vous voyez, on arrive au troisième changement paradigmatique. Celui qu'on vit aujourd'hui, celui que l'Église a fagoté dans le haut Moyen-Âge, après l'Empire romain, et puis celui qu'il y a entre la préhistoire et l'Antiquité. C'est-à-dire comment les antiques latins ou grecs ont récupéré le matriarcat méditerranéen, le chamanisme européen, pour en faire leur panthéon, leur olympisme et leur mythologie. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va voir sur le plan anthropologique ensuite. Petit exposé historique, forcément schématique, parce qu'on ne peut pas rentrer dans les détails, mais voyez, cette période historique, comment le carnaval a évolué, là on l'a remonté à rebrousse-poil, mais comment les classes sociales se sont comportées avec lui depuis l'Antiquité, les classes sociales et aussi les religions, les cléricales, hein, se sont comportées avec lui jusqu'à nos jours. Les protestants aussi, j'en ai pas dit grand-chose, mais ils n'ont pas été tendres non plus avec le carnaval. Hein. Les catholiques l'ont pas été, mais les protestants, parce que les protestants, c'est la partie de la bourgeoisie lettrée, donc la partie de la bourgeoisie qui a été le plus contre les idoles, contre les fétiches, contre ce qui est superstitieux. Les protestants ont toujours voulu marquer la rationalité vis-à-vis du catholicisme, qui était considéré comme une religion idolâtre. Donc les protestants n'ont pas beaucoup partagé la culture carnavalesque, c'est-à-dire donc dans les pays anglo-saxons, c'est le cas, quoique l'Allemagne, à ce niveau-là, elle n'a pas baissé la tête devant le dictat réformiste et contre-réformiste, catholique et protestant. Hein. Voilà. Donc si vous avez quelques idées de dire à qui, sur quelle réalité, hein, je ne fais pas de l'histoire, moi, pour le plaisir de faire l'histoire. Je fais de l'histoire pour essayer de comprendre. Moi, ce qui m'importe, c'est... je suis comédien. Et quand tu joues, il y a toujours quelque chose qui te retient par le trou du cul et qui te dit « Tu en fais trop, tu en fais pas assez. » Alors toujours notre gros problème, ça a été de dire « Qu'est-ce que je fais ? J'imite le personnage que j'ai à interpréter ou je suis possédé par lui ?» Ça, c'est un problème carnavalesque. Une société de plus en plus sécurité. Sécurité, tu feras pas ceci, tu feras pas cela. Bon, il n'y a plus dans notre espace social des moments de fête où tu fais péter les choses. Et ça existait. Et non seulement ça existait, ça a créé une esthétique pour le faire. Et non seulement ça a créé une esthétique, ça a créé aussi une déontologie pour le faire. C'est-à-dire un équilibre entre la société, les forces du mystère et la nature elle-même. Donc, moi, si j'interroge l'histoire, c'est pas parce que j'ai envie de passer un doctorat d'histoire, quoique, mais c'est en même temps pour se dire, si je dois inventer carnaval à Lourdes, mais qu'elle s'opère tout à coup. Père de Kev Motin, la révolution a barré et ouvert la porte à le carnaval. Alors, quand on me dit la République, liberté, égalité, fraternité, pourquoi une République a-t-elle été aussi aveugle sur les traditions populaires? Pourquoi la culture carnavalesque, les cultures des langues de France, est restée sur le strapontin, même quand la gauche était au pouvoir? Je parle au Front populaire, puis après, à certains moments de la Libération. Pourquoi on a mis les arts, les fêtes populaires, l'imagination populaire, la tradition populaire, pourquoi on l'a embarré dans un petit département de la jeunesse des sports? Pourquoi on l'a enfermé dans les arts et traditions populaires? Pourquoi sous Pétain on l'a appelé le folklore? Et pourquoi jamais on y a donné une place en soi? Ensuite, on a eu M. Malraux. Mais alors, M. Malraux, c'était le musée de l'imaginaire. C'était déjà une culture plus savante. Avec M. Jaglan, c'est devenu une culture plus commerciale, avec la mondialisation, etc. Mais la tradition populaire, est-ce qu'il y a ou non une culture populaire? Et est-ce qu'à quelle culture populaire est-ce la métèse que la culture aristocratique, la culture bourgeoise, que c'est par l'Oinker à l'université? Est-ce que vous avez été dans un conservatoire? Tu as l'accent du midi, tu as l'accent d'ailleurs. Et tu rentres dans un conservatoire, putain, j'ai besoin de merde, j'ai besoin de bouléguer. Ah mais c'est pas du théâtre ça, monsieur, c'est de l'acrobatie. Ah monsieur, c'est pas du théâtre, on dit être français, on parle comme ça. Hein? Alors voilà. Voilà ce que c'est de la culture en France. C'est une culture qui a coupe-kiki. Hein? Voilà, il faut pas trop faire de bruit. Et puis vous savez, ici c'est la faculté, dehors c'est pas... Alors ici on peut faire certaines choses, mais dès que vous appuyez, c'est là, oui, il faut pas, c'est interdit. Bon, voilà. Alors, vous voulez faire rentrer les professionnels à l'université? Nous, on ne fait pas rentrer les professionnels. Nous, ils sont à l'université pour penser des choses. Puis d'autres, dehors, le font. Ce n'est plus notre affaire.
Bertrand Sudbaroc, parlait de vos personnages comme Péfou ou des Cridaille des publics. Al baroque occitan par l'avance d'une pune, sous une détale sur le rôle du crieur public du Péfoum.
Le Péfoum de Goudoulin ou le Précou en Balanguedoc sont des personnages un peu héroïco-comiques. Sont des personnages qui sont un peu des cadets de Gascogne ou des cadets de Provence. Ce sont des grandes gueules et des grandes maîtres. Sont d'hommes caïmous, c'est castagnat. Manger, beurre, un peu comme d'Artagnan, des mondes de Kumako. Ce que les Anglais appellent aujourd'hui des tricksters, c'est-à-dire des sortes de marginaux coquins. Mais on pourrait dire, dans cette tradition, alors là on est sur la tradition orale, on pourrait dire que chez les Vietnamiens ils s'appellent Tranquin. On pourrait dire que chez les Alemaniques, ils s'appellent Lenspiegel. On pourrait dire que chez les Arabes, ils s'appellent Jaha ou Nasreddin. On pourrait dire que chez les Africains, c'est la tradition du lièvre. On pourrait dire que chez les Grecs, c'est Karagosis. C'est-à-dire que le baroque occitan, déjà au XVIe siècle, a senti la nécessité de définir un personnage carnavalesque qui serait irrécupérable. Massaire, maïsaire, gueuleur, cassagnaire, bagarreur, brave comme un que donnerait tout sa vie de compresse pour une idée qu'aucun un peu de capaces, ni maître, ni dieu, et pas même qu'est-ce complètement avec le corps sur la main. Vous voyez, le baroque, chez nous, le péfou, le précou, dans la fonction officielle, c'est une sorte de crieur public qui est là pour coordonner la fête, pour lancer de belles phrases, de beaux gestes, de beaux poèmes de réception. Mais en même temps, le peuple l'aime parce que c'est un joueur, c'est un amuseur, c'est quelqu'un qui sait rire des choses, faire semblant d'être dans l'officialité des choses, mais en même temps, ne sait pas faire un croc en jambe. Voilà un peu ce que c'est le Péfou, un personnage un peu duel, à la fois très protocolaire dans sa fonction de crieur public, de diseur de belles choses, et en même temps un coustat un peu cadet de Gascogne, un coustat bagarraire, voilà. Et alors c'est une tradition ça que tous les peuples en crise ont eu besoin. Moi, quand j'étais dans les années 80, après le théâtre d'oc des années 70, là, on a eu une période avec leur connerie de mondialisation, de Montpellier qui doit être le nombril du monde, le soleil ne s'arrête pas de luire sur Montpellier, je ne sais pas tout ce qu'on a dit sur cette ville. Il fallait survivre. Alors, pour survivre, il fallait jouer seul, parce qu'on ne pouvait plus se payer en groupe. Et alors, la mode était à Paris de « cherche-toi ton bouffon, cherche-toi ton clown, cherche-toi ton arlequin ». C'est intéressant comme procédé, je ne suis pas contre. Mais nous, chez nous, c'était plus « cherche ton trickster, cherche ton péfou ». C'est-à-dire, cherche quelqu'un qui ne soit pas comme le clown. Dans son isolement de la révolution industrielle, le clown, il a peur de son ombre. Hein, il ne ferait pas de mal à une mouche, c'est l'exclu de tout. Il ne sait plus d'où il vient, il ne sait pas où il va, il est seul. Et en même temps, ça le rend comique parce qu'il en fait de la poésie de sa solitude. Ça, c'est la naissance du burlesque anglo-saxon. Après, d'ailleurs, tout un processus, vous savez, au début du 19e siècle, il ne fallait plus parler sur les scènes de théâtre populaire. Alors, les comédiens ont écrit sur des petits panneaux. Puis après, on a dit, non, il ne faut pas écrire les dialogues sur des panneaux. Alors, les comédiens les ont chantés. C'est comme ça qu'est né, en partie, le vaudeville. Et puis après, non, mais il ne faut plus chanter. Alors, c'était réduit à quoi, être un acteur populaire? Eh bien, c'était faire du cirque. Et les seuls qui avaient le droit, un petit peu, de dire quelques mots... dans le cirque, c'était l'écuyer de la femme de la cavalière. Et c'est comme ça qu'est né le clown. Et voilà, il ne faut pas aller chercher comme ça, c'est ça la réalité. et nous, on était des fois comme ça, liberté, égalité, fraternité, mais dans la réalité, as pas permanentia. Tu as de la culture autant que tu en veux, des 13 vents, du printemps des comédiens, des... Eh oui, mais qui y vont là-bas? Toujours les mêmes. Je te reçois, tu me reçois. Et puis les gens d'ici à la porte. Bon, mais quand tu y es là comme ça, eh bien tu te dis, qu'est-ce qu'il faut? Alors tu te cherches un peu comme Villanova l'a fait avec des types populaires du midi. Moi, même avant cette aventure, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on cherche son trickster, on cherche son péfou. On cherche un personnage qui est dans une solitude psychologique, sociale, mais qui est dans une confraternité culturelle. C'est-à-dire, il partage quand même un inconscient collectif, ou un accent, ou une langue, avec un environnement. Et en même temps, il n'a pas complètement tué l'animal qui est en lui. Il a encore quelques idées de l'endroit où il est né. Il a encore quelques rêves de l'endroit où il voudrait aller. Et moi, j'en ai fait le personnage de langue de paix. À ma façon, modestement, je ne suis pas une star. Je l'ai fait avec petits moyens. Mais le péfoum, c'est ça. C'est cette façon de réagir au nom de tous. Mais en même temps, dans un complexe qui est personnel. Parce que tout le monde, à des moments particuliers de l'histoire, n'ose pas dire ce qu'il pense. Et le péfoum, il trouve les moyens de le dire en riant. Voilà, c'est ça la définition du péfoum. Et bon, ce n'est pas les Occitans qui l'ont inventé, ça se fait dans toutes les cultures minorisées de la planète, ou des fois des cultures qui ne sont pas minoritaires, mais des classes sociales misérables. Et voilà, c'est comme ça d'ailleurs que puis a pu naître des choses comme le hip-hop, etc. Hein. Ça s'est fait plus ou moins récupérer tout, je suis d'accord. Mais ça part quand même de ce vivier minoritaire, culturel, un sous-bassement qui fait qu'on ne cède pas. Culturellement, on ne cède pas. Politiquement, on n'a pas les moyens économiques ou financiers qui nous permettent de tenir la route, mais culturellement, eh bien, on invente nos danses, on invente nos personnages tant qu'on peut. Alors, s'ils se font bouffer, comme le jazz, il s'est fait bouffer lui aussi. Mais enfin, quand même, les premiers qui l'ont inventé, ils avaient envie d'être eux, ils avaient une identité à défendre. Hein, voilà. Le carnaval, ça part aussi de cette notion de contre-culture. Et ça, on le voit apparaître fortement au Moyen-Âge, la question de la contre-culture. Quand l'Église a commencé à essayer de récupérer, quand elle a senti qu'elle ne pouvait pas récupérer, elle a vite, vite essayé de faire la différence entre le profane et le sacré. Le profane hors de l'Église, hein, pour qu'on puisse se marginaliser. Le sacré, ça doit être saint. Quand le sacré, quand même, devient trop populaire, on interdit les mystères en 1545. Mais, à côté, le profane se développe. C'est les jongleries, c'est la sottie. La fête des fous, la fête des sots, la mère folle, c'est la contre-culture qui travaille, qui est la littérature du carnaval. Rabelais, ensuite, aussi, et il puise là-dedans. Bon, il en fait un monument littéraire, mais quand même, il se nourrit de ça. Et le carnaval est fortement lié à la contre-culture. C'est une résistance, c'est une esthétique de la résistance sur un substrat populaire qui puise dans des origines, qui ne veulent pas s'éteindre parce que... Pourquoi ne veulent pas s'éteindre les origines? Les Français fermeront peut-être la bouche aux Occitans. Les Occitans, ils sont nés des Latins, des Ibères, des Celtes. Avant eux, il y en a eu. Il y en a eu des langues qui ont été arrachées. Mais il y a derrière ça quelque chose qui continue à marcher. Et cette chose continue à marcher... Il faut qu'on la rencontre, qu'elle parle ce qu'elle voudra. Mais la cal rescontra. Perde que, et à quelle cause qu'elle ne peut pas perdre. Et à quelle clau, elle, qui te permet d'inventer des causes nouvelles. Mais en même temps, elle a ses richesses. Elle a cette contre-culture. Elle a ses hérésies. Ce sont des hérésies, des fois, religieuses. Avec les religions syncrétiques. Ce sont des hérésies, des fois politiques, quand ça s'appelle les croquants de chez nous, quand ça s'appelle les gueux. des gueules noires. Et ça a aussi une réalité culturelle, c'est-à-dire une esthétique particulière, c'est-à-dire ce qui devrait être une inspiration carnavalesque, des choix particuliers sur les rythmes, sur les couleurs, sur les polyphonies, etc. On en reparlera.
Oui, le carnaval des Montpellier, des Sokenas Beast à Banff, c'est Yabio, une animal totémique, ou c'est Yabio Pass, ou si c'est pas ça avant, à rester carnaval, qu'un bio des sens.
Oui. Tu vas vous dire ce que ça veut dire du carnaval des Montpellier. Le carnaval des Montpellier, pour ma génération, il y a eu 12 biais de loups biurés. Il y a eu le biais familier. Hein, quand nous avions à Montpellier, quand il y a un parrain qui à Montpellier, nous avons des mourats à la campagne, nous avons des paysans, mais quand nous venions ici, pour tout ça, à la cité de Montpellier, nous venions en ville, eh bien, il y avait quand même des choses importantes dans, encore dans, dans cette petite bourgeoisie montpelliéraine, c'était l'escoutaille, les cours coculières de l'escoutaille, c'était l'uchibalet. Alors, vous voyez, ça, là, ce sont, on, avec les cours coculières, le chibalet, la tradition montpelliéraine, là, du carnaval, elle prend certainement beaucoup appui sur la Renaissance baroque. D'ailleurs, il y a eu les ballets, même Molière, le ballet des Incompatibles, et je crois qu'il l'a écrit à Montpellier, en liaison avec un auteur occitan, dont je perds le nom actuellement. Mais enfin, il y avait comme ça, donc, sur Montpellier, une littérature savante, transdisciplinaire, hein, chant, théâtre, danse, le ballet des Incompatibles, ça en est un cas. Il y a eu ensuite les chibalets, la danse des chibalets, qui étaient des danses également qui peuvent être, ont quelque chose de carnavalesque, bien que les origines sont, on dit, Marie de Montpellier, le roi d'Aragon, elle serait née à l'occasion du mariage, les chivalets. Mais les chivalets, on en trouve dans toute, sur toute la terre. Il y en a chez les Basques, il y a le chivalet montpelliérain qui est, bon, c'est le cheval jupon avec les trois ou quatre qui ferraillent, font partir les mouches tout autour. Mais c'est le principe qu'on retrouve aussi dans le carnaval béarnais, qu'on retrouve aussi chez les chivaufrus de Provence. Mais là, le chival au flux de Provence, c'est des bandes de petits chivalets qui dansent en chorégraphie entre eux. Mais tous ces chivalets, quand même, reposent sur deux choses. La première, c'est que c'est les esprits animaux de la nature. C'est les forces, on va le voir quand on parlera du chamanisme. L'électricité, elle n'existait pas à cette époque-là. Mais les hommes ont eu l'impression qu'il y avait des courants cosmiques et telluriques qui nous traversent. Et ils appelaient ça des esprits animaux. Et la formalisation de ces esprits animaux, c'était un peu ces chivalets, des forces comme ça, des feux follets, des forces mystérieuses, obscures, qui te donnent la patate, hein, ou au contraire, qui te donnent le spleen, mais qui sont capables en même temps de t'emmener dans l'ivresse, dans la fête. Et donc ces forces sauvages, les peuples l'ont retenu sur la forme des chevaux jupons. À Montpellier, la tradition veut qu'on apprivoise le cheval jupon. On lui met des fers, on le fait manger à cibade. Donc il se laisse mettre des fers parce qu'on lui donne à manger à cibade. Et en même temps qu'on fait passer, on lui fait partir les mouches. Donc on lui dit quand même, tu es quelqu'un, regarde, on fait comme pour le roi, on te fait partir les mouches. Donc on le domestique. Donc en même temps, c'est l'image, un consensus entre la cité et la nature. Les forces sauvages peuvent rentrer dans la cité, mais elles sont quand même reconnues en tant que forces sauvages. Donc ça, cette tradition était très forte à Montpellier, puisqu'il y avait des sortes de concours, des mêmes des concours, des sélections pour les mius, chivalet, des touloulengato. Et puis il y a la tradition alors plus populaire, les cours coculières de l'escoutaire, ce qu'il a écrit, les pièces aussi de théâtre qu'il a faites, qui sont des farces. Et là, les cours coculières, c'est quoi? Bon, c'est par quartier, le comité de carnaval par quartier, il prend des initiatives. Parce qu'il fait l'inventaire de ce qui s'est passé l'année. Et puis, il convoque à la cour coquelière tel ou tel individu pour qu'il soit publiquement jugé. C'est une sorte de charivari, mais un petit peu, vous voyez, institutionnalisé. Parce que le vrai charivari, on le fait à l'emporte-pièce dans la rue, dans la spontanéité. La cour coquelière, elle est un peu plus ritualisée, domestiquée, dans un intérieur. C'est le comité de carnaval qui juge comme ça quelqu'un qui a été cocu, quelqu'un qui a trop déconné, qui est un peu trop ivrogne, ou bien quelqu'un qui exploite ses ouvriers. Les motifs peuvent être très très variés selon les courages du comité carnavalesque. Et ça, c'était souvent accompagné en même temps donc, de pièces, de piécettes, donc, de farces, donc, dans l'esprit vraiment de Rabelais, quoi, puisque Rabelais a été une grande référence du carnaval montpelliérain. Hein. Voilà, moi, ce que j'en sais. Hein, mais d'animal totémique proprement montpelliérain, moi, ma connaissance, si d'autres personnes savent, mais moi, dans mes enquêtes sur les totems du Languedoc, je n'ai pas trouvé de totem à Montpellier. Quoi. Par contre, une très forte présence du Tchivalet.
Pourquoi le Tchivalet, espace d'un animal totémique?
Parce que, à mon sens, de mon bécheire, le Tchivalet est une force électrique, cosmico-tellurique. C'est-à-dire, c'est une énergie, le Tchivalet. C'est une énergie sauvage. On a besoin d'être traversé par le Tchivalet. On a besoin de se laisser emporter par lui. Par contre, le totem, on va le voir au niveau du chamanisme, là, le totem, ce serait une sorte de... une reformalisation. C'est-à-dire, cette énergie sauvage, elle est formatée, elle est coagulée sur une sorte d'animal favori. Cet animal favori, à Pézenas c'est un poulain, à Béziers c'est un chameau, à Gignac ou à Bessan c'est un ase, hein, et cet animal totémique, il a ensuite plusieurs fonctions. C'est-à-dire, il représente la cité, c'est une sorte d'ambassadeur de la cité, un totem. Et on est les ancêtres on est les enfants du totem. C'est un animal psychopompe, c'est-à-dire c'est lui qui fait le charroi des âmes des morts, il les amène dans le ciel et il amène l'âme des enfants qui est Neissaran, de l'Annado. Et c'est le bout en train, quoi. C'est celui qui vient nous tirer à des loustales quand c'est un peu à flaquit. Sio que c'est bien, sio que c'est quand même pas la castagne, que c'est un peu malérousse. Et c'est elle qui vient te dire « Oh, des réveillotés, je ne suis pas tout seul, ma carrière gaito, tout le monde fait la fête, bien en veillez. » Voilà, ça, donc, l'animal totémique, donc, vous voyez, il a une fonction un peu plus précise que les chivaufrus. Les chivaufrus, à mon sens, c'est une... Le chivaufrus, c'est comme dans les cavernes préhistoriques, vous voyez, ces animaux qui sont peints, et qui sont frappés de signes, on y a posé des mains en négatif dessus, on y a mis des croix, on y a mis des spirales, on y a mis des petits traits, ce qu'on essaye de conjurer, d'exorciser, ou bien d'imiter, pour pouvoir avoir la patate, quoi, pour pouvoir rentrer en correspondance avec les choses qu'on ne voit pas, mais qu'on sent. Alors ça, on est déjà dans l'avant-antiquité. Là, on est maintenant dans la préhistoire. C'est-à-dire dans une lecture anthropologique du carnaval, parce que jusqu'à présent, on n'en a eu qu'une lecture, un constat, une legge de tabé historico, et à René Cariofa, une legge d'un pomaille anthropologique. Voilà, merci.
Merci.
À causer à la seconde partie d'une conférence menée par Claudia Alranc après pause del carnaval. Fuguette registrée le 12 de décembre de 2012 à l'Universitat Pau Valéry de Montpellier.